Habituellement, quand on parle de survie hein, face au chaos géopolitique ou même à l'effondrement d'une société, l'instinct humain dicte une réponse très spécifique.
Ouais, c'est clair. On cherche la sécurité.
Voilà. On s'imagine construire de murs colossaux. On se visualise, je sais pas, dans un bunker en béton armé entouré de provisions pour des années.
Avec des alliances militaires bien solides, forgées dans le marbre.
Exactement. L'être humain est vraiment programmé pour chercher la sécurité dans ce qui est visible, ce qui est massif et tangible.
Ah bah l'histoire regorge de ces tentatives, hein. Des murailles grandioses, des forteresses qu'on disait invincibles, des traités diplomatiques ultra complexes.
Ouais, c'est l'illusion du contrôle en fait, par l'accumulation de la puissance matérielle. Et pourtant, si l'on regarde attentivement, la manière dont les empires se succèdent et s'effondrent, ils finissent tous par s'effondrer.
C'est ça. Cette architecture finit toujours par céder, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur.
Ce qui nous amène à une question assez déstabilisante. Et si le manuel de survie le plus aiguisé face à l'effondrement des nations nous disait que ce fameux bunker en béton est un piège mortel?
Ah, ouais.
Et que la seule véritable protection face à la violence de l'histoire humaine, c'est pas une forteresse, mais juste une simple tente en toile.
C'est un paradoxe vertigineux. Ça renverse complètement notre ingénierie de la sécurité.
Et c'est exactement le cœur de notre plongée au cœur de ces textes aujourd'hui, en analysant les notes du docteur John Aswalt, et plus spécifiquement sa 8e session sur les chapitres 14 à 16 du livre d'Ésaïe.
Des textes fascinants d'ailleurs.
Vraiment fascinants. On y découvre une sorte d'autopsie de la géopolitique antique. Et le but de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est pas juste de faire de l'histoire ancienne, c'est vraiment de disséquer un thème universel.
Le danger mortel de placer sa confiance absolue dans les nations.
Voilà, dans les traités politiques ou les possessions matérielles, au lieu de s'en remettre à une force divine. C'est un vrai manuel de survie face à l'incertitude.
Et la pertinence de ces textes, elle tient surtout à leur ancrage dans une réalité terrifiante. Le récit commence par une transition assez brutale, en fait.
Ouais, on passe d'un extrême à l'autre.
Exactement. Précédemment, au chapitre 13, le texte utilisait Babylone comme une métaphore lointaine, genre le symbole ultime de la prétention humaine et de la gloire.
Une idée qu'on retrouve plus tard dans l'Apocalypse, d'ailleurs.
Tout à fait. Mais soudainement, au chapitre 14, verset 24, la dimension purement philosophique disparaît. Le terme oracle ou fardeau, qui annonçait de grandes visions métaphoriques, il est littéralement rayé du texte.
Plus de métaphores, on redescend sur Terre.
On atterrit avec fracas, dans la poussière et le sang. Et c'est l'Assyrie qui entre en scène.
Ok, décortiquons tout ça. Parce que l'Assyrie, c'est pas un symbole poétique.
Ah non, pas du tout.
C'est une vraie menace. C'est une machine de guerre impitoyable, la plus grande puissance mésopotamienne de l'époque, qui marche directement vers la petite nation de Juda.
Et la façon dont le texte aborde cette terreur existentielle est super intéressante. Au lieu de décrire la taille des armées ou le nombre de chars, le texte répète les mots « dessein » et « plan ».
Genre 5 ou 6 fois de suite.
Exactement. Ouais, en l'espace de quelques lignes, Dieu martèle ça pour établir une hiérarchie de la réalité. La Syrie pense écrire l'histoire avec ses épées, mais le texte affirme que l'histoire globale est entre ses mains.
Et il y a cette mention d'un bras étendu, c'est ça, le poing levé de Dieu.
C'est ça. Une force inéluctable qui surplombe tout le chaos.
Ce concept de point levé, ça me fait penser à un mur de briques. Ou plutôt, disons, à la force de gravité.
La gravité? Ah, c'est une bonne image.
Ouais, parce que la gravité, elle n'a pas d'état d'âme, elle négocie pas. On a le choix. Soit on aligne ses plans avec elle pour construire un truc solide.
Un bâtiment qui tient debout, quoi.
Voilà. Soit, par pure arrogance, on décide de courir directement contre elle. Et là, on s'écrase.
Et historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé avec la Syrie.
Attends, vraiment? Ils se sont écrasés à ce point?
Ah oui. Cette armée assyrienne qui semblait totalement invincible, elle a vu 185 000 de ses soldats anéantis en une seule nuit.
Waouh, en une nuit.
Ce qui a forcé le grand roi Sanchérib à fuir dans la précipitation. La gravité divine a repris ses droits.
Mais comment cette prophétie spécifique, très sanglante, très militaire, arrive-t-elle à ramener ces grands thèmes poétiques à la politique quotidienne et angoissante des habitants de Juda? Parce que la Syrie, c'était loin au début.
C'est vrai, la Syrie, c'était le grand empire massif. Mais pour survivre au quotidien, Juda devait d'abord gérer ses voisins immédiats, la géopolitique locale en somme.
Les voisins de palier, quoi.
Voilà. Et c'est là qu'entre en jeu la Philistie, la nation des Philistins. Sur la côte au sud-ouest.
Le vieil ennemi héréditaire.
Exactement. Il se battait continuellement pour les collines, les fameuses basses terres. Et vers 716 avant Jésus-Christ, un événement majeur se produit. Le roi de Juda, Ahaz, meurt.
Et j'imagine que pour les Philistins, c'est la fête.
C'est l'euphorie totale. Ils se réjouissent de la mort de leur ennemi, pensant que c'est une victoire stratégique décisive. Mais Ésaïe les prévient immédiatement.
Une douche froide.
Très froide. Il leur dit en gros que leur joie est vaine. De la racine du serpent sortira une vipère, un serpent volant.
Ouh, l'image est violente.
Ce qui remplacera le roi sera bien pire pour eux. La Philistie fera face à la famine et à une destruction totale. D'ailleurs, les Philistins n'existent plus du tout aujourd'hui.
Ils ont été effacés de la carte, alors que Juda devait trouver un refuge fondé en Sion.
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la survie d'un peuple ne dépend pas des accords diplomatiques ou de l'opportunisme, mais de son fondement spirituel. Les notes mentionnent même George Washington ici.
Ah oui, son fameux discours d'adieu.
C'est ça, où il conseille d'éviter les alliances compliquées, les « untangling alliances ». Cet instinct politique de méfiance prend directement racine dans cette sagesse biblique. Faire confiance aux nations est voué à l'échec.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je veux dire, n'est-il pas tout à fait naturel, biologiquement parlant, pour une petite nation de chercher des alliances politiques quand un empire géant attaque?
Ça paraît logique sur le papier.
Voilà. Pourquoi chercher l'aide d'un voisin est-il perçu comme une trahison directe envers Dieu?
Parce qu'un traité politique, c'est instable. C'est conditionnel. Dès que la situation change, l'alliance se brise. Chercher son salut là-dedans, c'est construire sur du sable et nier l'ordre cosmique pour se fier à des bouts de papier.
Et ce danger devient encore plus flagrant et tragique quand on regarde le cas de Moab, de l'autre côté de la mer Morte. Parce que autant la Philistie, c'était un ennemi clair et net.
Oui, une haine viscérale.
Autant Moab, c'était beaucoup plus ambigu. Il y avait des relations complexes, presque amicales parfois. L'histoire de Ruth, par exemple.
Oui, il y avait des racines communes.
Du coup, que se passe-t-il quand le jugement tombe sur une nation amie?
L'atmosphère bascule dans un deuil absolu. Le texte répète des mots comme gémissement, pleurs. C'est une scène de crise migratoire.
Les réfugiés fuient du nord vers le sud.
Voilà, sur la route des rois pour échapper aux Assyriens. Et dans leur panique, ils tentent désespérément de sauver les abondances accumulées de leur vie en les transportant par-delà le torrent des Saules.
C'est glaçant comme détail. D'ailleurs, la source utilise une image frappante. Ça fait penser aux réfugiés fuyant Paris face aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'exode, ouais.
Les routes bloquées par des voitures pleines à craquer de meubles, de poussettes, de tables. Ou même la guerre de 30 ans en Allemagne, où la moitié de la population a été décimée. On nous rappelle qu'on n'emporte rien dans la tombe.
Absolument. Pas de poche dans les linceuls.
C'est comme essayer de transporter un réfrigérateur sur son dos pour fuir une maison en flammes.
C'est une excellente analogie.
Tu transpires, le toit va te tomber sur la tête, et tout ça pour sauver une boîte en fer qui contient des yaourts. Ce ne sont que des choses.
C'est l'absurdité du matérialisme face à une crise existentielle.
Mais il y a un truc qui me chiffonne dans les textes. Il y a des pronoms à la première personne. Je pleure pour Moab, mes entrailles frémissent. Que ce soit le prophète ou Dieu qui pleure, pourquoi exprimer une telle compassion intime, viscérale, pour Moab, alors qu'ils n'ont pas versé une seule larme pour la Philistie?
C'est la nature de leur relation. C'est une tragédie familiale. La justice opère, oui, mais elle n'efface pas la douleur de voir une nation proche s'effondrer. C'est tellement terrible que les Moabites supplient pour avoir l'asile à Juda.
Ils demandent aux Monsions d'être une ombre en plein midi.
Poétique, non? Et cette demande d'asile amène une révélation étonnante. Le futur roi qui doit offrir ce refuge, son pouvoir ne sera pas fondé sur la force militaire.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Il sera fondé sur le Hesed.
Le Hesed.
C'est le mot hébreu, c'est ça?
C'est ça. Un mot quasiment intraduisible, il apparaît 250 fois dans l'Ancien Testament. Ça décrit un amour inébranlable, une grâce loyale. C'est la dévotion passionnée d'un supérieur envers un inférieur.
Une loyauté absolue.
Exactement. Et ce roi apportera aussi le Mishpat.
Qui est?
L'ordre divin.
Oui, l'ordre divin qui répare un monde injuste. C'est bien au-delà de la simple équité dans un tribunal, c'est restaurateur. Mais le détail le plus choquant?
C'est la tente.
Voilà. Ce roi gouvernera non pas depuis un palais de marbre, mais depuis la tente de David.
Le contraste est phénoménal. Le pouvoir humain exige presque toujours des palais fastueux, de la pierre, des armées. L'idée d'un roi dans une simple tente, qui est mobile, impermanente, vulnérable.
Un écho très fort à Jésus né dans une étable.
C'est vrai, enfin, ça renverse complètement notre conception de la sécurité. Ce n'est pas l'architecture ou les murs épais qui protègent, c'est le caractère intègre, le chesed.
Ce qui nous ramène à la chute de Moab. Si le trône idéal, c'est l'humilité d'une tente, qu'est-ce qui a causé la perte de Moab ?
Exactement l'inverse.
Ce qui est fascinant ici, c'est que le texte identifie clairement la racine de leur chute au chapitre 16, verset 6. C'est la fierté, l'orgueil humain.
L'illusion de pouvoir s'élever par soi-même.
S'élever contre Dieu a un résultat prévisible. Ce n'est pas un monstre jaloux qui se vexe, c'est une réalité de l'ordre cosmique.
Comme frapper de son poing dans une vitre.
C'est la parfaite analogie. La vitre se brise et tu te coupes, c'est mécanique. Et dans leur désespoir, au lieu de revenir à cet ordre, les Moabites fabriquent des idoles inutiles.
Ah oui, l'auteur donne cet exemple. Il raconte avoir vu un homme à Bangalore, en Inde, fabriquer de ses propres mains une déesse éléphant.
Oui, il sculpte la boue de ses mains, puis s'incline devant pour lui demander de le sauver. L'absurdité de créer soi-même son propre sauveur.
Prier une idole qu'on vient juste de fabriquer, c'est comme s'écrire un chèque pour payer ses dettes astronomiques à partir de son propre compte bancaire qui est complètement vide.
Un chèque en bois.
C'est une tentative psychologique désespérée de contrôler ce qui nous échappe totalement.
Dieu brise cette illusion de contrôle avec une précision troublante. Il donne un compte à rebours. Il dit que dans exactement 3 ans, comme les années d'un travailleur engagé, la gloire de Moab disparaîtra.
Un travailleur engagé compte chaque jour de son contrat, c'est super précis.
Voilà, ça prouve que Dieu ne fait pas partie des cycles sans fin du monde. Il est à l'extérieur. Il peut prédire l'avenir à la virgule près. Face au soleil de sa gloire, la grandeur humaine n'est qu'une petite allumette.
Ok, mais alors comment on applique ça aujourd'hui? Toutes ces dynamiques anciennes, ne pas faire confiance aux nations, éviter les alliances complexes, ça résonne de manière stupéfiante avec la politique contemporaine.
Énormément, mais il faut faire une distinction cruciale.
Laquelle?
Aujourd'hui, l'équivalent biblique d'Israël, c'est l'Église, la communauté spirituelle. Ce n'est pas un pays spécifique, comme les États-Unis ou la France.
D'accord.
Et l'histoire montre que tenter d'imposer une moralité religieuse à une nation essentiellement païenne par la force de la loi, ça se termine toujours en désastre.
L'exemple historique donné dans les notes est édifiant, la prohibition des années 1920.
Cela soulève une question importante sur la religion civile. À l'époque, la prohibition est partie de bonnes intentions. Le mouvement féministe, des femmes aux fortes convictions religieuses qui voulaient protéger les familles des ravages de l'alcool.
Des intentions nobles, donc.
Très nobles. Mais en forçant cette morale par l'appareil d'État...
Ils ont créé la mafia ?
Exactement. Le vide a laissé place au marché noir et le crime organisé, The Mob, est né. C'est le danger d'être, disons, dans la poche des courtiers du pouvoir. Fusionner l'État et la morale spirituelle fait des ravages.
Mais attends, j'ai une objection, là. Si les croyants ne doivent pas dépendre des nations ni chercher à imposer leurs valeurs par la loi gouvernementale, comment peuvent-ils interagir avec le monde ?
C'est la tension centrale, oui.
Comment voter selon sa conscience ou protéger la veuve et l'orphelin sans s'en mêler dans ces dynamiques de pouvoir destructrices qu'Ésaïe dénonce ? On fait quoi ? On devient tous des ermites ?
Non, l'analyse ne dit pas de se retirer du monde. Les auditeurs peuvent se rassurer, il faut voter selon sa conscience, agir pour le bien de la cité. Mais l'erreur, c'est de placer sa sécurité spirituelle ou son espérance dans ses structures étatiques.
Ah, je vois.
Il ne faut pas croire que c'est la Constitution ou le président qui sauvera l'âme de la nation.
Pour résumer un peu cette exploration incroyable, ça détruit vraiment l'illusion du pouvoir politique et des possessions matérielles. Le seul véritable refuge, face aux Assyriens autrefois ou face au chaos géopolitique moderne, il est fondé sur le Hesed.
L'humilité absolue de la tente de David.
C'est ça. Pour trouver la vraie sécurité, on doit cesser de faire confiance au bunker en béton de notre propre fabrication. Et ça mène à une pensée finale un peu provocatrice, découlant de ce qu'on vient de discuter.
Je t'écoute.
L'expert de la source a prédit que l'influence institutionnelle de la religion sur le pouvoir allait changer de façon radicale, voire s'effondrer, dans les 50 prochaines années.
Oui, il anticipe une perte d'influence massive.
Et aujourd'hui, cette perte d'influence politique et culturelle, elle ressemble souvent à une défaite, à un motif de gémissement pour beaucoup.
C'est vécu comme un recul civilisationnel.
Mais et si c'était en réalité le seul moyen de nous forcer à abandonner nos grands palais illusoires ? Et si c'était l'unique façon de nous pousser à redécouvrir la pureté et la vérité de cette fameuse tente de David ?
L'être humain lâche rarement ses illusions sans y être contraint.
C'est ça. La perte du pouvoir humain ne serait donc pas une fin tragique, mais pourrait bien être le commencement du véritable essai. Une idée à ruminer pour la suite.